Ça y est, l'été est fini. Les vacances sont finies. Enfin, ça dépend pour qui, pour les enfants. Pour les parents qui ont des enfants, les vacances vont un peu reprendre, parce qu'ils vont retourner à l'école. Et en préparant ce partage, depuis le début de l'été, le Seigneur a mis sur mon cœur le départ d'une nouvelle saison pour l'Église Clé. On ne se rend peut-être pas compte de ce qui se passe dans l'esprit. On n'est pas toujours éveillé aux choses de l'esprit, mais il y a un tournant. Et pour vivre cette nouvelle saison, il y a une étape. Et nous allons prendre l'exemple de Jésus qui est venu pour mourir à la croix. Et nous allons nous rendre compte que le disciple doit passer par le même chemin que le maître. Nous allons lire dans Jean 18, versets 1 à 10. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens et s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Amen. Donc là, on voit Jésus qui se prépare à aller à la croix. Et la Bible nous dit qu'il traverse le torrent de Cédron. Pour ceux qui ne savent pas le torrent de Cédron, passer dans une vallée au pied du mont des Oliviers. Et la Bible nous dit que Jésus et ses disciples s'y rendaient souvent. Ce qui sous-entend qu'ils s'y rendaient souvent au jardin. Donc le jardin, c'est quelque chose, c'est un endroit qu'ils connaissaient. C'est un endroit où ils avaient l'habitude d'aller. Et en étudiant ce passage, j'ai découvert ce que voulait dire Cédron. Cédron signifie trouble. Et Jésus traversait ce torrent à chaque fois qu'il allait au mont des Oliviers, où on a l'enseignement des Béatitudes, Matthieu 5. Et ça veut dire quoi? Ce qu'il faut savoir pour le contexte, les sacrifices se faisaient sur les autels qui étaient au-dessus du torrent des Cédrons. Et lorsque les sacrifices avaient lieu, il y avait donc, qui dit sacrifice dit sang. Et donc, on sacrifiait les animaux et il fallait évacuer ce sang. Et ce sang est passé dans un conduit qui était relié aux autels et ce sang venait se déverser dans le torrent des Cédrons. À chaque fois que Jésus marchait et traversait le torrent de Cédron, il se rappelait de sa mission. Parce qu'il voyait le sang mêlé à l'eau dans la vallée, dans ce torrent. À chaque fois qu'il allait au jardin, il passait par le torrent de Cédron. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Père avait prévu de rappeler la mission à son Fils. Ensuite, on voit le mot jardin. Et quand on voit dans Matthieu 26, verset 36, on explique cette même histoire avec un peu plus de détails, on se rend compte que le jardin, il s'agissait du jardin de Gethsémané. Gethsémané, c'est le lieu où Jésus va prier, où il va avec ses disciples, et il avait l'habitude d'y aller dans ce jardin. Mais cette fois-ci, c'est spécial. Le moment est arrivé pour qu'il fasse ce pour quoi il est venu. Gethsémané, ça veut dire quoi ? Gethsémané, ça veut dire le pressoir à huile. Pressoir à huile. C'est-à-dire qu'on prenait les olives à cet endroit, le mont des oliviers, etc. On prenait l'huile, et c'est le lieu où on pressait l'huile. L'huile signifie l'onction. Mais ce lieu est quand même spécial parce que le jardin, c'est un endroit qui est entretenu. Ce n'est pas une brousse, ce n'est pas un endroit abandonné. C'est un endroit qui est... Les arbres sont taillés avec précision. C'est entretenu, c'est préparé, c'est organisé. Et c'est à cet endroit que Jésus va, où il va être éprouvé. Pressoir à huile parce que pour avoir l'huile, il faut écraser l'olive. Il faut la presser. Mais dans l'huile, on a toute la substance de l'olive. On a le parfum. On a, en fonction de l'endroit où cette olive a été cultivée, on a un goût différent, on a un parfum différent. L'huile a un parfum différent. Qu'est-ce que ça nous rappelle ? Ça nous rappelle que Jésus est venu nous donner son parfum. Il est venu se sacrifier pour nous. Le pressoir à huile, c'est le lieu où tu meurs à toi-même. Et je ne sais pas si vous étiez là quand Anne a partagé le message. Je ne sais pas, qui était là quand Anne a partagé ? Mourir à soi-même. C'était sympa, hein ? C'était sympa, c'est bien. On a eu notre acteur préféré, Mike. Et j'ai relu son message, mais ce qui me frappait, c'était « Si tu veux me suivre, Luc 9, 24, si tu veux me suivre, prends ta croix chaque jour et suis-moi. Prends ta croix chaque jour et suis-moi. » Pour dire la vérité, c'était le message que je voulais prêcher aujourd'hui. Et quand Anne, je présidais en plus ce jour-là, et je demande à Anne, alors c'est quoi ton message ? Elle me dit, je dis, ah, ben c'est sympa, je vais recommencer. Parce que j'avais dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais me préparer tôt, je vais vraiment prendre le temps, je vais prendre ce message, je vais aller chercher en grec, en hébreu. J'ai dit, je vais préparer, j'avais commencé. Et quand elle me donne le sujet, je dis, bon, ben... Gloire à Dieu, il faut recommencer. Et puis, un autre message que j'aime beaucoup, c'est la foi. Pasteur Nina nous l'a partagé. Je dis, bon, bah, ok, mes options sont limitées. Et puis, je me suis dit, j'aime bien le côté pratique. Donc, j'ai enseigné sur la pratique de s'abandonner et suivre Jésus. Et puis, on a eu... Pasteur Leslie, qui est venu du Canada, que je ne connaissais pas du tout, qui l'a enseigné mais merveilleusement bien, que je me suis dit, mais je ne peux rien rajouter. Et de toute façon, si je le fais, ça serait tellement ridicule parce qu'elle l'a fait avec son parfum à elle, son onction à elle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que chaque personne qui va partager avec son parfum, avec le pressoir dans lequel il est passé. Et donc j'ai dit, bon Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Pasteur Rodrigue n'était pas là, il était en vacances. J'ai dit, bon, je demande à qui ? J'ai appelé mon père spirituel au Kenya, il me dit, mais c'est super, si le message qui a été prêché, ce que tu devais prêcher, c'est bon, continue. Je dis, oui, mais ça ne m'aide pas. Et puis, je me suis dit, bon, je vais quand même retourner dessus avec mon parfum à moi, ce que Dieu m'a donné moi. Mais j'avais oublié un message que j'avais reçu quand le pasteur Rodrigue nous avait fait faire l'exercice d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous vous rappelez de cet exercice? Vous vous rappelez ce que l'Esprit de Dieu vous a dit? Il y a moins de lui. Ne soyons pas rapides à oublier. Et moi, je m'en suis rappelé. Une fois que j'ai fini le message hier soir à 1h du matin, je me suis rappelé de ce que j'avais reçu. Et ça correspondait à mon message. Et là, j'ai dit, merci Seigneur, je suis confiant. Donc, j'ai écrit, bouillé des notes, et puis j'ai dit, bon, j'y vais. Et ce qui m'a frappé dans tout ça, c'est le prix que Jésus a payé. Gethsémané, le lieu du pressoir à huile. Le lieu où tu meurs à toi-même. Le lieu de l'intimité. Il y allait souvent. Le lieu de décision. Et lorsqu'on regarde dans Matthieu 26, Jésus va à Gethsémané avec ses disciples. Et au verset 39, il nous est dit, « Puis l'avançant de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette prière, Jésus va la répéter 3 fois. C'est la première fois qu'on voit Jésus pas hésiter, mais se dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? C'est la seule fois qu'on voit Jésus se dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Mais il dit, toutefois, pas ma volonté, ta volonté. Voyez-vous, dans ce jardin, Jésus venait résoudre un problème. Nous n'étions plus connectés au Père. Il vient résoudre un problème parce que Dieu veut nous réconcilier à lui. Et ça vient à un prix. Il a payé le prix en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Ce n'est pas un message facile. On a chanté de très bonnes chansons. Peu importe le prix, je te suivrai. Yeah. Est-ce que tu es déjà passé à Gethsémané? Est-ce que tu as déjà été pressé? C'est le lieu de décision. C'est-à-dire que Jésus va mourir à la croix et on met l'accent sur la croix parce que le sang a coulé à la croix. Parce que Jésus a fait le sacrifice, c'était horrible. Entre des brigands, on l'a humilié. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas là-bas que ça fait vraiment mal. Ce n'est pas là-bas que le sang a coulé, premièrement. C'est dans Gethsémané. Il est tellement pris qu'il y a une pression tellement forte qu'il transpire le sang. Donc, on peut s'asseoir et voir un homme de Dieu et parler de lui. On ne connaît pas sa vie. On ne sait pas par quel pressoir il est passé. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas le pasteur Rodrigue. Je le connaissais comme tout le monde le connaît à Montpellier. Mais je ne connaissais pas sa vie. Il m'a fallu 1 an et demi pour lui demander par quoi il est passé. Je savais qu'il était passé par beaucoup. Mais il m'a fallu 1 an et demi pour avoir le courage de lui dire, « Pasteur, mais que s'est-il passé ?» Il n'y a pas longtemps, on était chez lui. Et il ne m'a même pas donné beaucoup de détails. Mais le peu qu'il a dit. On peut parler à la légère parce qu'on n'est pas passé par le pressoir. Et cela nous empêche de rentrer dans notre destinée. Parce que ce que tu ne respectes pas, tu ne peux pas obtenir. Et si tu ne respectes pas l'onction qui est sur un homme, c'est que tu ne respectes pas le pressoir par lequel il est passé. Si tu n'apprécies pas le pressoir par lequel Jésus est passé, tu ne peux pas recevoir le message de la croix. Tu ne peux pas avoir la révélation de la croix. Donc on devient des chrétiens légers, baladés à gauche à droite, d'église en église, Et puis on y va. Et tu viens de naître de nouveau, ça n'a même pas un an, et tu sais déjà ce qui est bon pour toi. J'ai mon fils là qui certains l'ont vu, Théo. Il va faire un an le 12 septembre, Dieu voulant. Est-ce qu'il sait ce qui est bon pour lui? Mais nous, on arrive et puis on voit un ministère, on voit un pasteur qui est là depuis 30 ans, 40 ans, qui a donné sa vie, qui a laissé, qui avait des rêves de peut-être faire des affaires, de peut-être être pilote d'avion, j'en sais rien. Et Dieu dit non, viens d'abord dans le jardin. Viens d'abord dans le jardin avec moi, que je te presse, que j'évalue l'essence qui est en toi. Lui, il la connaît, le Père, mais toi, tu ne connais pas. Le pressoir, c'est pour révéler ce qui est en nous. Dieu, il sait ce qui est en nous, puisqu'il nous choisit. Ça serait difficile de choisir, par exemple, une équipe de foot. En ce moment, c'est encore le mercato pour ceux qui suivent le foot. C'est difficile de choisir un joueur si tu ne sais pas ce qu'il vaut. Mais des fois, les joueurs sont choisis, ils se disent « Ah, moi ?» Je fais une petite parenthèse, ceux qui aiment le foot, Umtiti. Personne ne le connaissait. Il signe à Barcelone et on découvre « Ah, le français Umtiti, c'est qui ça ?» Lui-même, il était surpris. Parce que c'est en étant entouré dans une pression comme ce grand club qu'il a découvert qui il était. Parce qu'on l'a pressé, on l'a utilisé, on l'a écrasé. Et maintenant, il est champion du monde. Et nous, on veut être champion du monde sans être écrasé. On veut avoir le droit de partager les pensées de Dieu sans avoir été dans l'intimité, sans avoir été dans le jardin. Le plus grand combat de Jésus était dans ce jardin. Pourquoi ? Le premier Adam a échoué dans le jardin. Il était là le combat. C'est dans le jardin qu'il a résolu d'aller à la croix. Trois fois il dit, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi ? Et qu'est-ce qu'il dit après ? Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Matthieu 26, 44. Il a quitté ses disciples. Pourquoi il dormait? Mais pourquoi il dormait? On s'est toujours posé la question, mais attends, vous êtes avec Jésus, vous avez passé 3 ans avec lui, c'est le Fils de Dieu, l'image de Dieu, la représentation de Dieu, la plénitude de Dieu, on a passé 3 ans avec lui, on l'a vu donner à manger à 5 000 avec 2 poissons et 5 pains. On l'a vu marcher sur l'eau. Et au moment où il dit, j'ai besoin de vous, seul endroit où Jésus dit, j'ai besoin de vous, venez, on va prier. Et il revient trois fois il dorme. Tu peux être dans l'église, tu peux être avec un ministère, mais ne pas porter le fardeau du ministère. Tu peux être là et ne pas porter le fardeau. C'est pour ça que tu dors. Il ne portait pas le fardeau de Jésus pour aller à la croix. D'ailleurs, plus tard, ils s'enfuient tous. Ils le laissent. Parce que quand Dieu va te prendre pour te presser, beaucoup vont te fuir. C'est le lieu d'extraction. Tout le monde y passe pour entrer dans sa destinée. Le temps est venu où les choses vont changer. Le monde ne nous fera plus de cadeaux. Qui a lu le France 3, ce qu'ils ont publié dernièrement sur Loulou Beignet? Qui a lu cette... Vous avez vu ce qui a été écrit? C'est... J'aurais dû le prendre, vous le lire. C'est... L'équipe qui veille sur les sectes a écrit dans France 3 que les chrétiens évangéliques font de recrutement par des versets sur des sacs de beignets. Vous savez, le loup beignet, il met des sacs, des proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découle la vie, etc. Et vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ces choses sont tellement dangereuses qu'il faut éviter que les enfants tombent dessus. J'avais l'impression qu'on parlait de pornographie. Là, c'est pas à Paris, c'est pas en Inde, c'est là, à côté, là. Vous croyez que ça va s'alléger, ça va être cool ? Le temps d'être cool est fini. Le temps arrive où on cherche les vrais, ceux qui ont mis tout à l'autel. Il n'y a plus le temps de jouer. Tu es là ? Je vais vous lire deux, trois petites choses. Merci. Selon des vacanciers, des sachets d'emballage de beignets transmettraient la pensée divine. Déjà, ils le reconnaissent. Au verso, la parole de Dieu y est inscrite sous forme de proverbe. Ils le mettent en gras. On peut y lire « La joie est pour ceux qui conseillent la paix » ou encore « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et mettent une photo. Et là, donc sur place, difficile de trouver les commerçants parce qu'on ne les trouve pas, on les cherche. Et cette équipe qui veille dit, elle met en garde contre les dangers de ces messages qui pourraient être lus par des enfants. Il faut rester très vigilant, donc il faut rester très vigilant. Et la première chose à laquelle je pense, c'est aux enfants qui sont les premiers consommateurs et qui risquent de tomber sur ces messages. Ils peuvent ensuite aller sur Internet parce qu'il y a le site connaître-dieu.com. Non mais, voilà ce qui nous attend. Est-ce qu'on a encore le temps de jouer ? Parce qu'il y a des versets qui vous disent « Aime ton prochain comme toi-même ». Par contre, enseigner aux enfants la sexualité au CP, ça, il n'y a pas de problème. Dans quel monde on vit ? Là, c'est à côté, c'est juste là. C'est pas loin de nous. Mais pour faire quelque chose, on peut dire, « Oh Seigneur, tu vois que c'est, ils salissent ton nom, tu vas prier, il ne se passera rien. » Tant que tu n'as pas décidé de suivre Jésus à tout prix. On verra juste après pourquoi c'est si important de passer par le pressoir. Parce que la puissance qui est libérée en nous, la bombe atomique qui est à côté ne fait rien. Donc Dieu doit être sûr que s'il vous donne cette autorité, cette puissance, vous n'allez pas remplir les désirs de votre chair. Voilà pourquoi il nous presse. C'est par amour. Parce que Jésus dit quoi ? Il dit, parce que je n'ai pas perdu un de ceux que tu m'as donné. Voilà pourquoi il prend l'oreille et de Malchus, il la recolle. Il protège Pierre, c'est pas pour Malchus. Il protège Pierre, parce que la peine de mort était la récompense pour celui qui touchait aux soldats romains. Donc Pierre aurait été exécuté sur le champ. Et Jésus dit, wow. Et c'était les gardes des Sadducéens, ceux qui ne croyaient pas dans les miracles, qui ne croyaient pas dans la résurrection. Donc Jésus fait deux choses. En même temps, il protège Pierre, en même temps, il démontre sa puissance et son autorité. Voilà pourquoi il veut qu'on passe par le pressoir. Parce que sans pressoir, pas d'huile. Sans huile, pas d'onction. Pas d'onction, une vie chrétienne, simple. On va chercher le pain, on vit bien. Seigneur, bénis-nous. On croit qu'on parle en langue tellement on dit bénis-nous. Ce message est pour vous, mais comme pour moi aussi. Nous devons reconsidérer. Aucune attaque personnelle. C'est juste que même pour moi, c'est dur. Vous savez, quand Pasteur Tom m'a dit, mais comment ça va ? Ça va ? Comment a été la famille cette semaine ? Il sait ce que ça coûte pour venir ici. Les attaques qu'on prend la semaine avant. Toute personne ne vient ici partager la parole sans une attaque, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc en vrai, le pasteur qui est bien habillé, il est propre sur lui, croyez pas que c'est ça. Ne glorifie pas l'onction d'une personne tant que tu n'as pas son histoire. Vous ne me verrez jamais avec des gens qui sont en train de parler des autres pasteurs, de ci, de ça. Vous ne connaissez rien de sa vie? Moi, je ne connais pas, donc laissez-moi faire ce que Dieu me demande. Eux, Dieu leur demandera leur compte. Parce que vous pouvez entraver votre destinée, parce que vous avez sali une onction qui est passée par un pressoir par lequel vous n'êtes pas passé. Et en France, c'est une maladie de discuter, de parler légèrement des ministères qu'on ne connaît pas. Vous savez ce que Dieu dit des justes? Sept fois il tombe, sept fois il se relève. Pourquoi vous réjouissez quand un ministère tombe? Ah, je vous l'avais dit. Ah bon? Tu es prochain. Ce n'est pas un message léger. Je suis conscient de ça. Mais Dieu ne m'a pas appelé à faire les messages bonbons, comme dirait Pasteur Carambiri. Dieu m'a appelé à arracher, détruire, déraciner, à planir, planter, construire. Ça, c'est la mission qu'il m'a donnée à moi. Donc, j'apprends. Le lieu de la solitude. Jésus demande une alternative. Dieu ne lui répond pas. Le Père ne lui répond pas. Tu dois passer par le pressoir. Tu dois passer par la croix. Il y a trop en jeu. Jésus, la parole. S'il échouait, Dieu ne pouvait plus parler. Il était muet pour l'éternité. Vous imaginez la pression? Si Jésus échouait dans le jardin de Gethsémané, Dieu ne pouvait plus jamais parler pour l'éternité. Il restait muet parce que Jésus est la parole. Et on parle de pression. Mon frère m'a mal parlé, donc je ne suis pas content. Bon, ben va le voir. Ah non, c'est trop de pression. On doit passer un cap, on doit passer un niveau. Nous ne sommes pas exempts de marcher dans les pas du Maître. Jésus a dit dans Jean 12, 26, je vais juste le lire rapidement. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il ne parle pas du ciel là. Au 24, il dit quoi? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde, pas qui déteste sa vie, qui déteste sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est-à-dire que le serviteur devra passer là où Jésus est passé pour obtenir les résultats qu'il attend de nous. Vous ferez des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai fait. Vous savez, on a eu l'habitude d'avoir depuis, je ne sais pas, j'ai grandi dans une autre atmosphère, une autre culture, merci. Et j'ai eu l'occasion de me replonger, comme le pasteur Rodrigue ce mois-ci, au mois de mai, dans une autre culture d'église. Je suis allé visiter mon père spirituel au Kenya. Et le soir, il me dit, demain, on va se préparer et on va aller déjeuner, et puis après, on va aller ensemble, etc. Donc, on était à l'hôtel, et puis le matin arrive, je me prépare une heure avant, parce que bon, il ne faut pas que je le mette une minute en retard. Vous comprendrez les clés de l'honneur. Tu ne peux pas le mettre en retard. Et je me lève, je me prépare, je l'attends, et je ne vois personne arriver. Et puis, il sort de sa chambre en short, en t-shirt, et je regarde l'heure, je me dis, mais... Et il dit, non, viens, on va déjeuner, on a le temps. Et donc, on va déjeuner, on prend le petit déjeuner. Et puis, je vois qu'il prend son temps. Et le week-end se passait dans une base militaire qui produit les plus grands militaires du Kenya. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les forces spéciales. C'est eux qui forment ceux qui gardent le président. Comme vous avez entendu qu'il y avait des terrorismes au Kenya, c'est eux qui sont allés abattre les terroristes. C'est eux qui étaient là. Ils viennent nous chercher, militaires, habillés militaires. Et ils arrivent, bonjour, et ils disent, bon, on vient vous chercher. Je dis, ah, ok. Je regarde le pasteur, il dit, dis-leur qu'ils reviennent plus tard. Revenez plus tard, s'il vous plaît. Ah, mais nous, on nous a donné l'ordre de venir. Je dis, oui, mais moi, on m'a donné l'ordre de vous dire de venir plus tard. D'accord, ok, on y va, ils sont partis. Et là, je regarde, je dis, mais je ne comprends pas. Et il prend son temps pour manger. Et je lui dis, mais ce n'est pas à 9h qu'ils doivent commencer. Il me dit, non, ils sont en train de prier depuis 7h30. Mais ils n'ont pas encore atteint le niveau de soif pour que je puisse libérer la parole que je dois donner. Et on est arrivé une demi-heure après l'heure qui était prévue. On était là, il me dit, ok, ils y sont presque, on y va. Et il se lève et on y va, moi je suis. On sort et puis il me dit, reviens dans la chambre, viens dans ma chambre voir. Il me montre un carreau, il me dit, mets-toi à genoux là, je vais prier pour toi. Le Seigneur me dit, là, il me dit, mets-toi à genoux, je veux prier pour toi là maintenant. Je dis, d'accord, je me mets à genoux, il dit, c'est à cet endroit que j'ai prié de 3h du matin jusqu'à l'aube, tous les soirs on était ici. Et le Seigneur me dit, mets-toi là afin que je te bénisse. Tu te mets à genoux, tu sens une autorité qui vient et tu te dis, vous savez, quand Dieu vous passe par ces choses-là, c'est pas pour, il y a une raison toujours derrière. Mais moi, naïf, je dis, ouais, super, oh, merci Seigneur. Et donc on va à l'endroit et ces gens étaient en train de prier depuis 7h30. Il était 10h quand nous sommes arrivés. On arrive et au bout d'une heure de louange, il me regarde et me dit, tu vas prêcher. Je vais prêcher? Je dis, mais ce n'était pas prévu. Il dit, oui, mais j'ai entendu l'ange de l'Éternel dire, tu prêches. Ok. Donc imaginez 600 personnes. Ils sont en feu comme pas possible. Moi, j'ai jamais été en feu comme eux. Et je dois leur donner une parole. Et je n'ai pas de préparation. Les références, je ne les trouve même plus. Et puis je me dis, ah, je connais un verset qui est bien. Je sais que je vais pouvoir dire. Je dis, il me regarde et me dit, non, ce n'est pas de Dieu. Tu es pressé à ce moment-là. Et là, je commence à prier en langue. J'appelle ma mère qui était juste à côté. Je dis, maman, je dois prêcher. Elle me regarde, elle me dit, quand ma mère parle en anglais, c'est que c'est chaud. Elle dit, what? Je dis oui. Donc je cherche un autre message, je cherche la référence, je ne trouve pas, je demande à ma mère la référence, elle commence à chercher elle aussi en panique, mon père est derrière en train de traduire pour Patricia qui était avec nous, et je regarde mon père, il entend la moitié, donc, et je suis là, je suis seul, il n'y a pas d'internet pour dire, je tape Google et je cherche la référence, et là je dis Saint-Esprit, ah c'est le moment, ou jamais, soit je suis disqualifié aujourd'hui, soit tu me qualifies, et il me donne la référence. Mais je ne lui dis rien. Et là, il se retourne vers moi et dit, le message que tu as reçu, c'est le bon. Je regarde, je dis, mais je n'ai rien dit. Et je ne lui dis pas ça, mais je le pense fortement dans ma tête. Et là, il sourit, il me regarde, il me dit, je le sais parce que j'ai vu l'huile descendre et se renverser sur toi. Et là, je dis, ok. Je sors et je prêche le feu. C'était pas moi, parce que moi j'étais, je cherchais mes mots, il fallait que je prêche en anglais. Et le Seigneur me dit, si je ne te qualifie pas, si tu n'es pas pressé, tu n'es pas digne de moi. Et je suis toujours en train d'être pressé, c'est pas fini. Donc quand le pasteur Toine me dit, comment tu vas, comment ça a été la semaine? Oui, mercredi, les deux grands sont tombés malades, il a fallu aller chercher au centre aéré le même jour. Le petit qui avait mal, etc., maman qui avait mal au dos, et tout ça, l'entreprise, le client qui t'appelle, qui te dit, je ne suis pas content. Et tu te dis, ok, Seigneur. Et puis le lendemain, il arrive, il dit, oh, franchement, super boulot. Et tu te dis, mais c'est quoi ça? On doit être pressé. Et le temps me presse. Mais pourquoi autant de pression? Pourquoi autant de... de difficulté à rentrer au pressoir. Vous savez, la parole que Dieu m'avait donnée, c'était que il est le cep, nous sommes les sarments. Jean 15. Et qui dit que si vous ne portez pas de fruits, ben, on vous jette dans le feu, etc. Et Dieu me parle à ce moment, et moi j'ai toujours dit, bah oui, Dieu cherche les fruits. On veut un arbre se reconnaît par les fruits, oui. Et là il me dit, mais moi je veux le jus qui sort de ses raisins. Je dis, waouh, c'est la première. Je ne disais même pas écrit dans la Bible pour moi. C'était loin. Je dis, mais pourquoi? Et le Seigneur me dit, mais parce qu'il faut écraser le fruit pour en attirer l'essence, la substance. Parce que le raisin lui-même, tu le manges, et c'en est fini de ce raisin. Il ne parle plus de la gloire de Dieu. Par contre, quand tu prends ce raisin et que tu l'écrases, et que tu fais ce que tu sais faire, on est dans le sud de la France, donc ceux qui, excusez-moi si vous ne buvez pas de vin, mais ceux qui connaissent un peu le monde du vin. Vinicole, merci. Vous savez qu'il y a un travail qui demande l'intervention de l'homme. Dieu a dit, je veux faire les choses à travers vous dans cette nouvelle saison. Je veux travailler à travers vous. Je veux la patte de l'homme. Parce que lorsque le raisin est écrasé, qu'on en fait du jus et qu'on le met dans ce process de pression qui va créer le vin, on peut le garder même un siècle. Et il parle toujours de la gloire de ceux qui l'ont fait 100 ans derrière. Et Dieu dit, c'est ce que je veux pour l'église clé dans cette nouvelle saison. Je veux que les hommes et les femmes se lèvent et qu'ils fassent partie de l'œuvre que je veux faire dans ces derniers jours. Mais ça demande d'être pressé. Donc on ne peut pas se dire, oh mais vous savez, je ne sais pas, je vais voir si Dieu le veut, mais en réalité tu es en train de dire, tu veux pas être spirituel, mais tu sais que tu vas dire non. Non, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dans cette saison, ce n'est plus une histoire de bénis-moi, bénis-moi. C'est une histoire d'abondance, parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, la richesse des injustes viendra vers les justes. Mais quel juste? Ceux qui ont été pressés. Ceux qui ne prendront pas ces richesses pour eux-mêmes, mais pour faire la volonté du Père. Ceux qui vont prendre ces richesses pour apporter l'évangile afin que les âmes viennent au Seigneur. Ça arrive, c'est au coin de la porte. Les temps arrivent où Dieu va manifester sa gloire, son impact qui va demeurer dans les écrits. Nous sommes en train d'écrire les livres des actes pour notre génération. Mais ça demande de passer chacun dans son Gethsémané. Dans Colossiens 2, verset 3, la Bible nous dit, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà pourquoi on est pressé. Parce que si Dieu te donne la connaissance des sols et que tu trouves le pétrole qui t'emmène à peu près 5 millions de dollars par jour et que ton cœur est à moitié dans l'évangile, à moitié dehors, c'en est fini de toi. Si Dieu te donne aujourd'hui la responsabilité d'une église de 10 000 personnes et que ton cœur n'est pas en place et tu es assis ici, c'en est fini de toi. Ça va te tuer, la pression va te tuer. Donc, il faut qu'il y ait une pression qui t'ait transformé, qui soit au-dessus de la pression que tu vas vivre. Voilà pourquoi Dieu ne nous fait pas passer par des choses, des épreuves qu'on ne peut pas surmonter. Parce qu'il nous a éprouvés, parce qu'il nous a fait passer par le pressoir. Il veut nous donner les trésors cachés. Regardez Colossiens 2, 8, et on va finir là. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. On aime bien la philosophie en France. Faites attention. C'est les choses de l'esprit, pas de la philosophie. Par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. En ce moment, il y a un mouvement de plus en plus prophétique qui se manifeste. Ceux qui ont écouté la mise en garde du prophète Bruno, ils savent qu'il a dit quoi? Il a dit, la prophétie sans l'intimité, c'est la magie blanche. Sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Déjà, ça enlève trois quarts des choses qu'on pense. Le banquier, si, le médecin, si, etc., etc. D'abord sur Christ et après, on va dehors. Mais pas dehors et on ramène pour essayer d'adapter Christ à ce qui se fait dans le monde. En effet, et c'est là qu'il, Paul nous lâche la bombe, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Christ qu'habite corporellement, corporellement, toute la plénitude de la divinité. En français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu a mis dans le corps de Christ toute la plénitude de sa divinité à lui. Voilà pourquoi il doit nous presser. Parce que nous sommes comme Dieu, un peu inférieurs. Limités à sa volonté. Voilà pourquoi il nous presse. Parce que si nous prenons conscience de ça, sans l'intimité, sans Christ, on peut faire des dégâts. C'est comme donner une arme nucléaire à un enfant. Tiens, ces boutons rouges, appuie, ça va faire poum, tiens. Non, c'est un père. Je ne donnerai pas une voiture qui tuerait mes enfants. Et voilà ce que Dieu fait. Et nous, on veut ce christianisme qui est doux. Oui, papa, papa. Oui, papa, oui. Mais l'Éternel, l'Ancien des âges, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, celui qui dit que les montagnes s'élèvent, les montagnes prennent 3 mm. Combien de centimètres enlevés sur une montagne? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà pourquoi on passe par le pressoir. Et lorsqu'on passe par le pressoir, qu'on a le sceau de Dieu pour faire, il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. C'est celui dont Jésus a parlé, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez ce que le Saint-Esprit est capable de faire ? Il est capable de vous protéger, de vous guider, de vous permettre de ne pas passer par des choses que vous ne devez pas passer. Et un témoignage, il y a quelque temps, on était ici avec Jean-Marc et il y avait Mike, il y avait Alfred, on était là, on avait décidé de prier ensemble. Et on était ici samedi matin, la veille que de la prédication de Anne, et on était en train de prier, puis Jean-Marc nous dit « J'ai reçu que nous devons aller autour du bâtiment et prier. » Il avait un message qu'il avait reçu qui n'est pas à propos aujourd'hui, mais il fallait aller dehors et prier. Vous savez, moi, c'est des fois, je suis un peu têtu. C'est-à-dire que marche, ok, allez, il faut marcher. Je connais la puissance dedans, mais c'est des fois... C'est compliqué. Il n'y a que moi qui et Dieu qui sait. Mais et je dis, bon, est-ce qu'on va vraiment le faire? On ne va pas le faire? Je commence à réfléchir. Et puis, je pense qu'il avait oublié d'ailleurs. Donc, je dis, bon, en plus, il fallait que je rentre. Et on était là depuis 9h du matin. C'est ça, 9h, hein? Il était 15h. 6h de prière. On croyait qu'on avait fait 2h. Et quand on a vu l'heure... Je dis, mais moi, j'ai dit que je serai à la maison à 13h, il est 15h. Bon, ben Seigneur, ça, c'est ta faute, donc tu gères. Et donc, on se met dehors, là. Et puis, je suis près de l'autoroute et j'entends une voix qui me dit, si tu mets un briquet sur ce cyprès, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et je me dis, mais ça va, mais c'est la folie, c'est comme les gens qui commencent les feux. Je commence à me dire, mais quel genre de pensée t'envahit, Daniel? Pyromane. Va te faire délivrer. Et puis, je prie en langue, et puis je dis, non, je prends mes pensées, je les rends captives à l'obéissance de Jésus-Christ, et je dis, allez, va avec eux, et je vais vers eux, et je sens encore une attirance vers là-bas. Je dis, retourne. Et là, j'entends, mais si ça brûle, est-ce que le bâtiment brûle? Je regarde par terre, je dis, on est peut-être en danger, là. Donc, je combats encore, je m'en vais, et encore, Mahamène. Et là, j'entends, si une voiture brûle sur l'autoroute, est-ce que ça brûle ici? Et là, je comprends que Dieu est en train de me dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Je regarde les voitures qui passent, et là, je dis, bon, ben, Seigneur, garde les gens qui sont sur la route, tous ces vacanciers, etc. Et je les bénis, tu vois, et je dis, je m'oppose à toute attaque de l'ennemi, d'éliminer, machin. Vous savez, la prière. Il était 15h20. Tu pries, tu sais que tu pries, mais tu sais quand tu pries, tu n'es pas convaincu. Tu dis juste parce que, tu dis, vaut mieux obéir parce que l'obéissance vaut plus que le sacrifice et tu pries. Je rentre chez moi et ma femme reçoit un coup de fil et je vois sa tête qui change de couleur. Et je ne sais toujours pas ce qui se passe. Elle raccroche. Elle me dit, la voiture de mon frère vient de brûler sur l'autoroute à la sortie 29. Il était 4h30. Il y avait sa femme et ses deux enfants dans la voiture, et lui. Une fumée blanche, il s'arrête au dernier renfoncement de sécurité, il s'arrête, il va à la borne, il appelle, il dit, ma voiture est en train de prendre feu. Il y avait juste une petite fumée, rien de... Il avait regardé, il dit, ma voiture est en train de prendre feu, envoie les pompiers. Il se retourne au bout de 3 minutes, la voiture est en flamme. Les enfants ont été sauvés. Sa femme, qui est pompier volontaire, a eu la présence d'esprit de faire ce qu'il fallait, mettre les enfants dehors. Ils ont réussi à sortir 2 valises et tout le reste a cramé avec la voiture. En 5 minutes, la voiture était complètement cramée. Dieu nous envoie son esprit. Et nous avons, en Christ, l'autorité d'arrêter les flèches de l'ennemi. Nous avons cette puissance, cette autorité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, d'empêcher les choses, de déclarer des choses, faire des décrets pour que le plan de l'ennemi soit anéanti. Et c'est cette alliance qu'il a fait avec nous. Et on s'arrête là. Et je voudrais que on prenne le temps de réflexion et qu'on obéisse à ce que Dieu, à ce que Jésus nous a recommandé. Il nous a donné la Sainte Cène comme un signe de reconnaissance de ce qu'il allait faire. Une alliance avec lui. Et avec tout ce qui a été partagé, ceux qui le peuvent, on va prendre ce temps de réflexion, d'évaluation de nos vies, de là où nous en sommes avec lui. Il y a ceux qui sont passés par Gethsémané, il y en a. Il y a ceux qui y passent, il y a ceux qui ne sont pas encore passés. Jésus a payé le prix ultime, sa vie. Qu'es-tu prêt à payer? Qu'es-tu prêt à donner en suivant son exemple? Qu'est-ce que tu dois lâcher dans ta vie? Prenons le temps de baisser la tête et d'écouter la voix du Saint-Esprit. Les difficultés, il y en aura toujours. Tant qu'on est sur cette terre, il y aura des difficultés. Il y aura des épreuves. C'est la preuve qu'on est encore sur terre. Mais la Bible nous dit que Jésus ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Je vais demander à l'équipe de procéder à la distribution de la Sainte. Il est dit dans Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Jésus prit et donna à ses disciples. Ce repas est pour les disciples. Et si tu n'es pas encore disciple, décide d'être disciple. Disciple, c'est celui qui veut vivre comme Jésus, qui veut manifester la vie du Père. Prends le temps de dire à Dieu ce que tu veux lui dire. Dis à ton Père céleste ce que tu veux lui dire, ce qui est sur ton cœur ce matin. Libère, pose à la croix. Tu es peut-être en train d'endurer des choses dans ta vie aujourd'hui. Dieu dit, j'ai tout porté à la croix. Marche la marche. Je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. Marche la marche. Tu es ici et tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as pris le salut à la légère. Tu as pris le sacrifice de la croix à la légère. C'est le moment de se réconcilier avec le Père. C'est le bénéfice que nous avons en Jésus-Christ. Si c'est ton cas, tu peux lever la main et on va prier pour toi. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment. Dernier appel pour le salut. Pour être réconcilié avec Jésus, dernier appel. Deuxième appel, tu n'as pas pris conscience de la portée du sacrifice. Dieu t'appelle à marcher avec lui. Dieu t'appelle à marcher cette marche. Parce que il t'a appelé et tu le sais. Et tu as toujours fui. C'est le temps de prendre la décision. Toi que Dieu a appelé à le servir, mais tu as fait le choix de faire autre chose. C'est le moment de te réconcilier avec lui. Si tu es dans la salle, lève la main. Deux personnes. Vous pouvez venir devant si vous le désirez. Dieu veut élever ses enfants dans cette nouvelle saison. Nous rentrons dans une saison où Dieu va distinguer ses enfants, aussi bien dans l'église locale, mais dans la société aussi. Nous rentrons dans une saison où Dieu ne permettra pas qu'on touche ses oins. Les attaques sont frontales maintenant, comme on a vu tout à l'heure, parce que ça annonce une nouvelle saison. Ça annonce que nous sommes arrivés au moment où on doit sortir du pressoir et pour certains y passer. Père éternel, nous te rendons grâce de ce que tu es bon, de ce que tu es merveilleux, de ce que tu veux élever tes enfants. Tu veux nous ramener dans cette nouvelle saison que tu as déclarée sur nos vies. Nous acceptons cette nouvelle saison avec humilité, car nous comptons sur toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais nous croyons que tu es capable. Utilise-nous. Accorde-nous la grâce de mesurer la profondeur de ton amour, la profondeur de la confiance que tu as en nous, parce que tu as cru en nous. Et cela nous donne la capacité de croire en toi. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels afin qu'on voie ce que tu es en train de faire maintenant. Ouvre les oreilles. Dieu est tellement capable de faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Un jour que j'étais dans l'avion, je priais, je disais, Seigneur, je veux connaître ton cœur, je veux que tu m'utilises. J'étais sur un vol de 10 heures. Et soudainement, mes oreilles se sont ouvertes. Et j'entendais les pensées des gens qui étaient assis à côté de moi. Et je peux vous dire que ces pensées ne glorifiaient pas Dieu. Il y avait des plaintes, il y avait des murmures, il y avait des insultes, il y avait tellement de choses. Et je n'ai pas entendu une seule voix qui glorifiait Dieu. J'ai ouvert mes yeux, l'avion était calme. Je fermais mes yeux, j'entendais les pensées des gens qui étaient autour de moi d'une manière claire, audible. Et cela s'est répété 3 fois. Et j'ai dit, Seigneur, ça suffit, je ne peux pas supporter. Cherchons le cœur de Dieu. Cherchons le cœur de Dieu. Ce matin, il se laisse trouver. Cherche le cœur de Dieu. S'il y a une personne ou deux qui peuvent venir prier pour ces personnes. Nous te rendons gloire, Père. Parce que tu déclares une nouvelle saison. Tu déclares une nouvelle saison. Nous déclarons, nous décrétons qu'une nouvelle saison démarre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons rentrer dans notre destinée. Nous devons entrer dans les œuvres qui produisent le vin à nouveau. Les œuvres qui découlent de la vie éternelle qui est en nous. Il y a des gens parmi nous qui sont cachés, que le Seigneur veut mettre la lumière sur ta vie. Tu as reçu une intelligence spirituelle forte. Et cela s'est manifesté par un succès dans tes études. Et le Seigneur m'a parlé de toi depuis le début de l'été. Et le Seigneur dit, ouvre-toi. Sors de ce cocon qui te referme et qui ne permet pas au monde de voir la gloire que j'ai mise sur ta vie. Tu m'as honoré. Tu m'as mis en première place. Et le temps est venu que je te mette à la lumière afin que l'Église voie, que le monde voie que j'ai mis mon sceau sur ta vie. Ophélie, Marmande, lève-toi. Tu as été choisi par Dieu pour cette saison. Dieu t'élève comme un étendard pour manifester la puissance de son intelligence, la puissance de sa force. Dieu te distingue maintenant. Et tu seras toujours distingué. Ne crains rien car il ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui précède tes pas. Et c'est lui qui t'a donné cette intelligence afin que tu manifestes sa puissance. Dieu veut élever ses enfants. Ophélie est arrivée ici il y a à peu près 2 ans. Et le Seigneur m'a donné une parole pour elle. Où le Seigneur disait, je t'élève comme un aigle. Je te distingue parmi la nation. Et tu seras mon étendard. Elle a commencé ses années, elle a eu les meilleures notes à la fac de théologie. Excellence sur excellence. Et comme l'aigle est souvent seul dans les hauteurs, c'est les autres qui viennent à toi. Rentre dans cette saison.
C'est toujours le Alléluia. Si tu veux, je descends sur un seul.
Une deuxième personne, Alicia. Lève-toi. Le Seigneur dit que je transforme tes pierres en diamants. Tu oublieras les temps de ta honte et de ta jeunesse. Je t'ai choisi, je t'ai attiré à moi. Ne crains rien. Comme j'ai choisi Esther, je t'ai choisi pour plaider ma cause. Ne crains pas. Ne crains rien. Tu es dans sa voie. N'oublie pas. Mais ne fais pas tes choix par rapport à ton passé. Jésus était déjà avec toi et il t'a gardé, il t'a préservé. Mais il dit, le temps est venu pour accélérer.